Nous vivons dans un monde où les religions se côtoient dans nos propres sociétés, ce qui, pour des chrétiens, constitue un enjeu multiple. D'abord, le fait que toutes les religions ne disent pas la même chose, ne portent pas nécessairement le même message. Et aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, qui est d'ailleurs une société plutôt post-chrétienne que chrétienne, le message chrétien est non seulement peu entendu de la société civile, mais éventuellement critiqué, contredit, discuté par des zélateurs, des gens qui suivent d'autres religions. Voilà. Donc il y a un enjeu qui est pour des croyants, pour des chrétiens, qui est qu'aujourd'hui on ne peut plus être chrétien sans connaître les autres religions, puisque celles-ci ne se privent pas de nous interpeller, de nous interroger. Et puis il y a un enjeu qui est un petit peu plus fondamental, qui est un enjeu théologique, qui est le fait que le message chrétien, s'il fallait le résumer, vous savez, le resserrer sur son noyau, ce que les théologiens appellent le kérigme, c'est-à-dire le noyau dur, consiste à dire que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ et que Jésus-Christ sauve, donne son salut, offre son salut à tous les hommes. Le message chrétien, c'est pas que le Christ sauve les chrétiens. Sinon, c'est que le salut offert par le Christ est offert à tous les hommes. Et du coup, on voit tout de suite la difficulté avec la pluralité des religions. Si on affirme de façon péremptoire et sans réflexion le Christ sauve tous les hommes, alors à quoi bon d'autres religions? Et vous voyez que d'emblée, alors je vais poser des distinctions ou des écueils un peu tranchés, hein, on affinera au fur et à mesure, mais d'emblée on est pris entre deux écueils, deux positions disons extrêmes. L'un de ces écueils, ce serait l'écueil dogmatique, qui consisterait à dire le Christ, c'est la vérité, le christianisme possède la vérité, et donc tout ce qui n'est pas le christianisme est hors de la vérité, et donc c'est l'erreur. Et donc les autres religions n'ont rien ni à apporter comme valeur positive, ni même à apporter comme interpellation du christianisme. Donc ça serait l'écueil dogmatique. Et puis l'autre écueil, l'écueil symétrique, qu'on pourrait appeler l'écueil relativiste, qui consisterait à dire, au fond, eh bien, de fait, le Christ, c'est le chemin des chrétiens, mais d'autres chemins sont possibles, le chemin bouddhique de la sagesse, le chemin des grandes religions indiennes, de ces grands mythes qui, depuis des millénaires, tissent l'imaginaire de l'Inde ou d'autres civilisations, l'islam, évidemment, pour une très grosse partie de l'humanité. Et toutes ces religions, au fond, sont des chemins différents, certes, mais des chemins équivalents. Et au fond, celui qu'on appelle Dieu, ce serait l'horizon où tous ces chemins se rejoignent. Le problème de cette position-là, qui évidemment apparaît comme plus tolérante, plus agréable, plus ouverte, c'est que elle relativise complètement l'incarnation. C'est-à-dire qu'au fond, comme je le disais au début, le Christ ne se serait incarné que pour les chrétiens. Ce qui n'est pas vraiment le message chrétien. Donc, vous voyez que, en quelque sorte, la théologie chrétienne est prise entre deux écueils de feu qu'elle va devoir, en quelque sorte, dépasser par le haut. Et ça, c'est l'enjeu du Concile Vatican II dans sa déclaration, donc Nostra Aetate. Et c'est un petit peu ce qu'on approfondira aujourd'hui dans une deuxième partie. Alors, peut-être on va éteindre un petit peu pour que les images soient un peu plus visibles. Donc cette première séance donc est une sorte de grande introduction. Suivront donc une séance dans 15 jours sur le judaïsme et donc sur le dialogue judéo-chrétien. Et puis les deux séances suivantes seront consacrées à l'islam, l'une que j'assurerai, la première, et la seconde où donc j'ai invité Michel Younes, qui est un éminent spécialiste des religions arabes chrétiens. Qui connaît très bien l'islam puisqu'il est libanais, il a vécu au Liban toute sa jeunesse, et qui nous parlera plus spécifiquement donc du dialogue islamo-chrétien. Et puis donc on en est déjà à la cinquième séance, l'hindouisme, ou plutôt les religions de l'Inde. Sixième séance, les bouddhismes, les différentes formes de bouddhisme. Et dernière séance, les religiosités contemporaines, les nouvelles religiosités, etc. Alors aujourd'hui, pour cette séance un petit peu introductive, donc deux temps. Un premier temps de découverte, ce sont des grands points de repère, hein, une sorte de panorama des grandes religions du monde. Qu'est-ce qui les distingue en gros, hein, ça sera vraiment à très gros trait aujourd'hui, mais c'est pour se donner quelques points de repère un petit peu clairs. Et dans un second temps, précisément, la théologie chrétienne des autres religions, c'est-à-dire comment les théologiens chrétiens pensent l'existence des autres religions, leurs valeurs, éventuellement leurs limites, et comment une rencontre, une interpellation mutuelle peut se faire. J'aurais pu commencer par là, d'ailleurs, en disant qu'il est quand même remarquable de voir que, souvent, des chrétiens ont été approfondis dans leur propre religion par la rencontre d'une autre religion. Pensez à Charles de Foucault, qui lui s'est carrément, en quelque sorte, non pas converti, mais en tout cas a réveillé une interrogation spirituelle par le spectacle de musulmans en prière, avant sa reconversion. Et on peut penser donc à tous ces chrétiens qui, dans le dialogue avec d'autres religions, ont pu approfondir leur propre tradition. Et c'est évidemment réciproque. Voilà. Alors, j'indique simplement que si vous voulez un support un petit peu plus nourri que mes modestes diaporamas, vous aurez la possibilité d'acquérir l'ouvrage Les Grandes Religions, donc qui a été écrit chez les Maristes par des enseignants. Mais alors, des livres sur les grandes religions, il en sort toutes les semaines, hein, donc vous pourrez en trouver autant que vous voudrez. Mais celui-ci présente l'avantage que chaque religion est vue dans la perspective d'un dialogue avec le christianisme. Donc c'est pas une présentation strictement parallèle et indépendante des religions, mais c'est chaque religion décrite pour elle-même et ensuite mise dans un dialogue avec le christianisme. Alors il y a quelques livres qui seront disponibles à l'accueil, et puis si des gens on les trouve en librairie, facilement. Vous avez peut-être reconnu la rencontre d'Assise en 86, donc il y a 25 ans. Premier temps, donc, quelques grands points de repère sur la notion de religion et les grandes religions de l'humanité. On sait que le mot religion a une étymologie qui peut être discutée, mais quelle que soit celle que l'on va préférer, les deux font sens, hein. Religere, au sens de recueillir, faire mémoire. Alors, je vous signale aussi que le PowerPoint est sur vos feuilles, hein, ça vous évite de prendre. Donc le mot religion vient d'un mot latin soit de religere qui veut dire collecter, recueillir, faire mémoire, hein, comment un peuple recueille une histoire, une mémoire, des repères spirituels pour donner sens à son existence, à son avenir. Et puis religare, ce qui est plus souvent cité comme étant l'étymologie de religion, qui veut dire relier. Une religion, c'est normalement ce qui relie. Mais ce lien peut se faire en quelque sorte dans deux directions, une direction métaphoriquement verticale, c'est-à-dire ce qui relie l'être humain à l'absolu, à une dimension transcendante, mystérieuse, ou bien une direction horizontale, un lien qui relie les membres d'une communauté. Et de fait, toute religion comporte ces deux dimensions. Ce qui relie. Précisons donc un tout petit peu, hein, si vous voulez bien, qu'est-ce que l'on met au fond lorsque l'on parle, qu'est-ce qu'on met derrière le mot religion, hein, une réalité religieuse, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le fait religieux. Qu'on soit croyant ou non, chacun reconnaîtra qu'il y a un fait religieux. Il y a un fait musulman, il y a un fait chrétien, etc. Qu'est-ce que l'on met derrière ce fait religieux? Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Alors on pourrait dire que une religion, c'est une sorte de synthèse entre trois grandes dimensions. Alors, il n'y a pas d'ordre de valeur entre ces trois dimensions, puisqu'elles s'interpénètrent toutes les trois. On peut d'abord parler d'une dimension théologique, au sens où une religion propose, quelle qu'elle soit, propose une certaine vision du divin. Bon, vous voyez, j'évite de dire Dieu, puisque Dieu est déjà un mot piégé, puisque selon le contexte, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Donc, je dis le divin, de façon très vague. Une conception de l'homme, qui est souvent très liée à celle que l'on se fait du divin, une conception du monde, on pourrait ajouter aussi une conception de l'histoire. La conception, par exemple, judéo-chrétienne de l'histoire n'a rien à voir avec la conception indienne, qui est une conception cyclique, est très marquée par le mythe. Alors que la conception judéo-chrétienne, une conception orientée avec un commencement qui tend vers un achèvement et quelque chose d'irréversible. Voilà, une certaine conception du divin, de l'homme, du monde, ça c'est ce que l'on peut appeler une théologie. Alors, sur quoi se fonde-t-elle? Ça peut être sur l'enseignement d'un maître, comme le bouddhisme. Ça peut être sur une tradition non située historiquement, comme les grands mythes de l'Inde. Ça peut être sur une révélation plus ou moins située historiquement. Par exemple, dans l'islam, c'est tout à fait situé historiquement. Même si cette révélation se présente comme, d'une certaine façon, non historique. Éternelle, puisque dans l'islam, il y a cette idée d'un Coran qui a préexisté à toutes ces annonces. Un Coran éternel. On y revient. Deuxièmement, donc, ce qui caractérise une religion ou un fait religieux, c'est un certain type d'expérience spirituelle. Je veux dire par là que on peut, au plan théologique, ne pas avoir beaucoup de culture, et pourtant vivre d'une expérience spirituelle, qui est l'expérience d'un groupe, d'une église, d'une communauté. Et chaque religion, donc, va proposer un certain type d'expérience spirituelle. Voilà pourquoi, d'ailleurs, lorsque l'on dit que deux hommes prient, c'est bien difficile de se dire qu'ils font la même chose. D'ailleurs, déjà au sein d'une même religion, deux chrétiens qui prient l'un à côté de l'autre, voilà. On est dans l'ordre de l'indicible, de l'insondable, de l'expérience spirituelle profonde. Et en même temps, c'est bien clair que lorsqu'on lit, par exemple, des textes de prière, on voit bien qu'il y a une certaine tonalité, par exemple, chrétienne, des prières chrétiennes, et puis une certaine tonalité musulmane, une certaine tonalité bouddhiste, on voit bien que tout n'est pas interchangeable. Donc cette expérience spirituelle, elle est tout de même marquée par le courant dans lequel on se situe. Est-ce que ça va? C'est à peu près clair. Et puis, troisième dimension de ce que l'on peut appeler une réalité religieuse, c'est un retentissement, disons, social, visible, sur une culture. Alors tout ce que l'on peut imaginer, tout ce que l'on voit d'ailleurs au premier coup d'œil, lorsque l'on découvre une civilisation que l'on ne connaissait pas, une certaine organisation du temps, de l'espace, voilà, je vais à Damas, je vois des mosquées, j'entends un appel à la prière, je vois que le temps est rythmé d'une certaine façon, je vois qu'il y a des fêtes, je vois qu'il y a un art musulman qui est tout à fait repérable, tout à fait particulier. Tout ça, c'est le retentissement social, culturel, des deux dimensions précédentes. Voilà pour une première approche de ce qu'on peut appeler un courant religieux. Alors, à partir de là, donc, on va essayer de faire une toute petite typologie, une toute petite classification. Alors, c'est très risqué, et on va forcément m'accuser de schématisme, de simplification, voire d'omission, d'ailleurs, parce que forcément, on ne parlera pas de tout. Alors, au fond, je vais commencer par là. Voilà. Je vous propose ce tableau qui a certainement ses limites, mais qui essaye de mettre un tout petit peu d'ordre dans les différents courants religieux de l'humanité. Alors, vous voyez qu'il y a quatre quatre grandes catégories, disons. Ce sont évidemment les deux catégories centrales qui vont nous retenir, nous, de façon plus spécifique, mais Malgré tout, on ne peut pas omettre que le phénomène religieux est un phénomène qui est aussi vieux que l'humanité, semble-t-il, puisque on reconnaît un homme au fait qu'il enterre ses morts et qu'il ritualise les funérailles. Autrement dit, qu'il met une gratuité dans quelque chose qui effectivement ne vaut que par le sens qui lui est conféré. Voilà. Et donc, on a ce qu'on peut appeler les religions traditionnelles, hein, pour pas dire primitives, parce qu'il y a quelque chose peut-être de péjoratif, un mot primitif. Les religions, dont on, des religions naturelles, disons, de l'Afrique à l'Océanie, en passant par l'Amérique, où l'on voit donc un petit peu toujours les mêmes traits communs, donc culte des ancêtres, croyance en des forces naturelles qui traversent le cosmos, qui traversent le monde, hein, ce qu'on peut appeler l'animisme. L'animisme, c'est un mot très très fourre-tout, hein, très global, pour désigner cette espèce de croyance spontanée que la nature est tissée de forces spirituelles. Que ce soit le Shinto, par exemple, au Japon, ou n'importe quel peuple africain, est pénétré de ce type de croyance. On est dans l'ordre de religion naturelle. Alors, vous avez vu que verticalement, donc, j'ai mis sa conception de l'absolu et à côté conception de l'homme, parce que souvent il y a un lien étroit entre les deux. Alors, dans ces religions traditionnelles, bien souvent l'individu existe par l'unité du clan. On dit souvent qu'en Afrique, la force de la religion africaine, c'est de faire avant tout l'unité du groupe. Et celui qui va défaire l'unité, hein, c'est le malfaisant. Celui qu'on va appeler le sorcier, par exemple. Le sorcier, il est malfaisant parce qu'il défait l'unité. Ce qui est le plus important, c'est l'unité sociale. Voilà. Alors là-dedans, toutes les religions traditionnelles, et puis j'ai fourré dans le même paquet, et ça c'est vraiment discutable, mais bon, toutes les religions antiques, hein, de l'Égypte, de la Mésopotamie, de la Perse, de la Grèce, sur lesquelles, évidemment, beaucoup de choses pourraient être dites, puisque finalement, il y a une très, très, très grande différence entre les dieux de la cité grecque et romain, et puis par exemple, cette très belle religion de la Perse, hein, le mazdéisme, qui est une religion très morale, avec ce principe du bien et ce principe du mal qui s'affrontent, hein, et l'homme qui doit choisir son camp. Vous savez que c'est un courant religieux qui a eu tellement d'importance qu'il a même eu des résurgences en plein Moyen-Âge chez nous, quoi. Ça a été le courant cathare. C'est extraordinaire de se dire que voilà, des religions aussi vieilles que ça. Alors il y a eu d'abord l'hérésie de ce qu'on appelait le manichéisme, qui n'était pas vraiment une hérésie, plutôt une autre religion, que saint Augustin a beaucoup suivi, hein, pendant 10 ans de sa vie. Et puis ensuite, bien plus tard, au Moyen-Âge, l'hérésie cathare, c'est toujours le retour de ce vieux dualisme, religion dualiste de la Perse. Bon. Mais nous ne parlerons pas de tout ça dans le cadre de ce cours. Alors, à partir de là, et puis au fond, je vais tout de suite faire l'impasse sur ma dernière ligne, c'est-à-dire tous les courants qui ne sont pas des courants religieux originaires, mais des courants dérivés, par exemple, les mélanges religieux, ce que l'on appelle un syncrétisme. Un syncrétisme, c'est un mélange religieux. D'ailleurs, je vous parlais de saint Augustin qui était un partisan du manichéisme avant sa conversion. Le manichéisme était une forme de syncrétisme. Les mouvements ésotériques, les mouvements sectaires, tout cela, disons, ce sont des courants religieux en quelque sorte un peu marginaux, même s'ils peuvent être éventuellement très importants, je n'en parlerai pas. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de poser une distinction très fondamentale entre si on prend vraiment les religions contemporaines, mais qui ont un fondement très ancien, hein, une certaine assise, de voir que finalement, elles se distinguent selon deux grandes catégories, ce qu'on va appeler les monothéismes, parce que nous, ça nous parle, on voit à peu près de quoi on parle, et ce qui n'est pas le monothéisme et qu'il faut appeler le panthéisme. Alors de quoi on parle lorsqu'on parle de panthéisme, hein, du grand panthéisme orientaux? Alors, le mot panthéisme est un mot important, c'est un mot clé, hein, si vous ne le connaissez pas, retenez-le bien. Hein. Panthéisme, ça signifie que il y a une seule substance des choses. Et cette substance, c'est l'être, c'est l'absolu, c'est le divin, appelez-le comme vous voulez, mais tout est dans ce divin-là. Tout est dans cette unique substance. Alors, dans cette intuition philosophique et spirituelle qui est extrêmement profonde, se trouvent en quelque sorte récapitulées les grandes religions de l'Orient. C'est-à-dire les grandes religions de l'Inde, les grandes religions de la Chine, et évidemment tout ce qui en sort, comme le bouddhisme et ses différentes formes. Pour mieux comprendre ce que cette vision panthéiste a, j'allais dire, de rigoureux et d'admirable en tout cas, de respectable, pour le moins, mettons-le à distance du monothéisme. Parce que qu'est-ce que dit le monothéisme? Si je rassemble maintenant dans un seul ensemble le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui toutes les trois disent au moins une chose commune, c'est que le monde est créé par Dieu, il faut bien comprendre que le fond du monothéisme, c'est de dire que le monde n'est pas divin. Que le monde n'est pas divin, et que d'une certaine façon, rien n'est Dieu que Dieu. Voilà pourquoi le monothéisme va s'en prendre à toutes les formes d'idolâtrie, idolâtrie de la nature, idolâtrie du pouvoir, etc. Parce que toutes ces idolâtries visent à diviniser quelque chose. Mais s'il y a un message du monothéisme, j'allais dire aujourd'hui, comme hier, c'est de dire que rien n'est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas s'étonner que dans l'Antiquité romaine, les chrétiens et les juifs étaient très souvent rassemblés dans la même injure qui était athée. Ce sont des athées. Ils reconnaissent pas le culte de l'empereur, ils reconnaissent pas... Vous savez que la Rome religieuse était très tolérante, hein, contrairement à parfois ce qu'on imagine, ils acceptaient tous les cultes, pourvu qu'on reconnaissait le culte de l'empereur. Et donc, on voyait des cultes orientaux à la déesse Cybèle vénérer un certain nombre de forces magiques, naturelles, etc. On voyait d'autres vénérer autre chose. Il fallait vénérer l'empereur. Bon, bref, ça grouillait de vénération, de sacralité. Or, le judaïsme, qu'est-ce qu'il fait? Il désacralise tout. Et ça commence dans la première page de la Genèse, où, si on fait une exégèse un peu fine des récits de création, en gros, ces récits de création nous disent que rien n'est sacré dans la nature. Vous savez que, par exemple, le texte de la création en six jours, hein, c'est une espèce de polémique contre les récits mythologiques de Babylone. Les Hébreux viennent d'être déportés à Babylone, ils se sont frottés à la religion babylonienne, ils reviennent et ils écrivent les récits de création. Et en particulier, le quatrième jour, dans le premier récit de la création, puisqu'il y en a deux, Dieu crée les grands luminaires. Et puis c'est tout. Les grands luminaires, on ne leur donne pas de nom. Alors que dans les grandes mythologies de l'Orient, les grands luminaires ont tous un nom, et ce sont des divinités. Vous voyez, quand le texte de la Genèse dit « Dieu crée les grands luminaires », il dit surtout « Les grands luminaires ne sont pas Dieu. Ils sont créés, comme le reste. Rien n'est Dieu. » Vous voyez la grande différence de l'idée monothéiste par rapport à l'idée panthéiste. Alors maintenant j'affine un tout petit peu plus, hein. Dans l'intuition panthéiste, dans la vision panthéiste, donc tout est Dieu, hein, tout est Dieu, tout est divin, tout est dans l'unique, dans l'un. Même d'ailleurs, vous savez, par exemple, sans trop anticiper sur la suite, mais dans l'hindouisme, dans les religions de l'Inde, il y a des tas de divinités. Et donc très facilement, nous, on va dire, ce sont des polythéismes. Mais c'est une très grave erreur. Parce que les divinités, pour un Indien, ce ne sont que des manifestations momentanées, plus ou moins superficielles, de l'unique grand tout, de l'unique être, le Brahman chez les Indiens, et que derrière ce polythéisme apparent, il y a ce panthéisme. Il y a une seule substance, qui est la divinité. Donc, c'est souvent un regard occidental un petit peu imprécis qui voient du polythéisme là où il n'y en a pas. Là, si vous voulez, c'est un polythéisme de surface à vocation populaire, à la rigueur. Mais fondamentalement, non. Bon, j'espère que c'est pas, je suis pas trop confus dans mes explications. La vision de la personne humaine dans cet univers panthéiste, forcément, elle est très différente de la vision de la personne dans le monothéisme. Pourquoi ? Parce que la personne humaine, en quelque sorte, appartient tout autant au divin que le divin, elle est une parcelle de la divinité. Par exemple, dans l'hindouisme, on verra que la finalité d'une vie humaine, c'est petit à petit, enfin, et en tout cas, un jour définitivement, de se fondre dans l'unique divinité. Un petit peu comme la vague à la surface de l'océan. Bien sûr, il y a une vague, mais une seconde plus tard, la vague a déjà changé, elle n'est plus la même. Son existence est éphémère, illusoire, apparente. Et seul existe l'océan, l'immense océan. Vous voyez que la vision de l'homme dans ces courants-là, là, je simplifie complètement, hein, mais dans ces courants-là, est tout à fait différente de la vision dans le cadre, évidemment, monothéiste. Dans ces religions, vous avez les religions de l'Inde, j'ai mis hindouisme, ça n'existe pas, il y a beaucoup de religions en Inde, bouddhisme, les différentes formes du bouddhisme, bouddhisme religieux, qui est aujourd'hui quand même majoritaire, mais aussi bouddhisme de la sagesse, qui existe toujours, et les religions de la Chine, etc. Alors, du côté des monothéismes, donc on a dit que finalement, l'idée monothéiste fondamentale, c'est pas dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, toutes les religions pensent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, c'est vraiment uniquement superficiellement qu'on peut avoir l'impression d'un polythéisme, mais qui est toujours plus ou moins de surface. Toutes les grandes religions pensent qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a une seule divinité, un seul être, fondement de tout. Mais le propre du monothéisme, c'est l'idée de création. Voilà pourquoi l'idée de création est fondamentale dans le monothéisme. C'est que Dieu crée, c'est-à-dire que Dieu donne d'être à quelque chose qui n'est pas lui, ou à quelqu'un qui n'est pas lui. C'est l'idée de création. Je vous laisse d'ailleurs méditer là-dessus, mais au niveau strictement philosophique, c'est pas une idée très facile à penser. Parce que comment Dieu, qui est l'éternel, l'absolu, le tout, la source de tout, peut-il faire être en dehors de lui? C'est pas évident. Comme si Dieu se restreignait lui-même dans son acte de création. Le judaïsme va beaucoup réfléchir à ça. Cette idée d'un Dieu qui se limite lui-même en créant. Et en particulier en créant ce monstre d'inquiétude, comme disait Peggy, qui s'appelle l'homme. Est capable de se distancier même de son créateur. Bon. Donc voilà pour l'idée monothéiste. Alors, maintenant, si on doit faire une distinction au sein des trois grands monothéismes, la première, il me semble, il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais celle qui me paraît la plus fondamentale va séparer d'un côté le judaïsme et le christianisme. Et d'ailleurs, le christianisme ne peut pas considérer que le judaïsme est une autre religion. Il est obligé de considérer qu'il est sa source. Mais ça sera la rencontre de la prochaine fois. Qui sont des monothéismes de l'Alliance. Alors qu'on pourrait dire que l'islam est ce qu'il dit de lui-même, à savoir un monothéisme du livre. La différence, on aura tout le temps de la creuser, mais disons que l'idée d'alliance est une idée qui s'inscrit dans une histoire. Dans l'idée d'alliance, il y a l'idée de deux parties, d'une relation, une relation consentie, une relation qui sera une relation d'amour, mais aussi il y a l'idée de quelque chose qui se déploie dans une histoire. Et toute la Bible, quand on lit la Bible, s'il fallait résumer la Bible en un seul mot, ce serait le mot alliance. Dieu fait alliance, refait alliance, l'alliance est brisée, Dieu renouvelle son alliance, etc., etc. Et donc il y a une dimension historique, de déploiement historique, avec un certain sens du temps et de l'histoire, comme je disais. Dans l'islam, il y a quelque chose d'assez différent, c'est-à-dire que, on le verra en détail là encore, hein, mais lorsque Mahomet reçoit le message du Coran, dicté par Dieu en arabe, selon le Coran lui-même, il ne reçoit pas quelque chose de nouveau. Il reçoit un message qui avait déjà été donné tel quel plusieurs fois, je parle dans la perspective musulmane, un message qui a été donné tel quel plusieurs fois à Abraham, à Moïse, à David, à Jésus, etc. Mais le message a été perdu, le message a été falsifié par les juifs et par les chrétiens, etc. Bon, on verra ça plus tard. Mais le message est intemporel. Le message est intemporel. Ce qui va déterminer quelque chose de très différent entre l'islam et on pourrait dire le judéo-christianisme. Au point de vue de l'anthropologie, là encore, on aura le temps de le voir. Hein, dans les trois monothéismes, là, on peut peut-être d'abord souligner ce qui est vraiment commun. Hein, c'est l'idée qu'il y a tout de même, si quelque chose est sacré dans la création, au fond, il y a une seule chose sacrée dans la création. C'est pas les autels, c'est pas le temple, c'est pas les églises, c'est la personne humaine. La personne humaine, dans l'acte créateur, elle a été voulue pour elle-même. La nature a été voulue en vue de l'homme, etc. Qu'est-ce qui est sacré dans la création? C'est la personne humaine. En revanche, grosse différence entre le message de la Genèse que reconnaissent les juifs et les chrétiens et le message coranique, l'idée d'une personne créée à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça t'a déjà l'expliqué. Mais l'idée d'une personne créée à l'image de Dieu est déjà, pour le Coran, une forme d'idolâtrie. C'est déjà quelque chose qui est faux. Parce que rien n'est à l'image de Dieu. Un Dieu est celui qui est sans image. Et le monothéisme musulman sera toujours intransigeant là-dessus. Dieu est celui qui est sans image. Donc dire que l'homme est image de Dieu, ça c'est une tromperie de la Genèse. La Genèse telle que les Juifs l'ont mise par écrit. Donc voilà. Alors là, il y a un accent différent au niveau anthropologique entre les Juifs et les chrétiens et les musulmans. Alors, pardon pour cette page un peu, peut-être un peu dense et un peu compliquée. Est-ce que ça va? À peu près. Alors, du coup, peut-être pour mettre un tout petit peu d'ordre, ou un peu de clarté en tout cas. Au fond, je me suis amusé à imaginer des questions. C'est un petit peu un exercice un petit peu académique, mais imaginer des questions qui permettent de distinguer finalement les grands courants, spirituels. Les grandes positions spirituelles de l'humanité. À commencer d'ailleurs par l'athéisme, qui est une position respectable, qui lorsqu'elle est pensée, lorsqu'il est pensé pour lui-même, peut se donner des arguments, etc. Quatre grandes questions. Première question, donc, existe-t-il un fondement absolu de l'univers, de la diversité des êtres, de tout ce qui fait notre perception du monde? Y a-t-il quelque chose d'absolu, quelque chose qui ne dépend que de soi et qui est le fondement de toute chose? L'athée va répondre non, ce qui est quand même pas une position très facile philosophiquement, mais bon. La position la plus facile, c'est la position panthéiste, de dire oui, tout est dans l'absolu. C'est pour ça que beaucoup d'athées, en fait, sont pas athées, ils sont plutôt panthéistes. Le plus bel exemple, parmi les gens un peu médiatiques, c'est Comte-Sponville, qu'on a eu la joie d'accueillir ici il y a 2 ans, là, et qui a fini par dire, bah oui, il n'a pas dit comme ça, il aime bien dire qu'il est athée, mais il a reconnu que sa vision était la vision d'un panthéiste, en fait. Il y a un absolu, mais qui est un absolu impersonnel. Voilà. Bon, alors du coup, vous voyez, je vais trop vite, parce que j'en suis déjà à ma deuxième question. Bon, donc l'athée répond non, il n'y a rien. L'agnostique, c'est-à-dire notre religion la plus courante, dit je sais pas, il y a peut-être quelque chose. Bon, et la position, disons, religieuse, au sens le plus large, répond oui, il y a un fondement. Un fondement absolu, éternel. Bon. Alors à partir du moment où on se situe dans cette affirmation-là, la grosse question qui va distinguer ces deux grands courants dont de grande perspective que j'ai distinguée, c'est de dire, voilà, cet absolu, mettons le divin, eh bien, est-ce que ce divin est quelque chose d'autre que le monde, que la nature, que le cosmos, ou bien ce divin, il est le monde, il est cette nature. Si vous dites que le divin, c'est-à-dire vous l'appellerez Dieu, est distinct du monde, hein, vous êtes dans une logique de création, c'est-à-dire dans une logique monothéiste. Il y a un Dieu créateur. Si vous dites non, le monde c'est Dieu, comme dit Spinoza, le philosophe disciple de Descartes, le monde c'est Dieu, vous êtes panthéiste. Voilà. Si vous vous situez dans la logique, c'est la troisième question, si vous vous situez dans la logique monothéiste, ce qui va faire la différence entre un judéo-chrétien et puis un musulman, ça va être cette notion d'alliance. C'est-à-dire que ce Dieu transcendant que l'islam aime tellement souligner, valoriser, avec beaucoup de grandeur, d'amplitude, beaucoup d'ampleur, ce Dieu transcendant est-il aussi celui qui fait alliance, c'est-à-dire qui rentre dans une relation d'amour, d'accompagnement, d'attente, de désir avec l'homme? Hein, et l'islam répond non. Hein, Dieu, c'est le tout autre. Alors, il peut condescendre, dans une certaine forme de condescendance, hein, à s'occuper de l'homme, mais il est surtout le Dieu tout autre. Et puis, il dicte une parole intemporelle pour guider l'humanité, mais on ne rentre pas dans les vicissitudes d'une histoire. Tandis que, si on est dans une logique d'alliance, on est dans la logique judéo-chrétienne. Et puis, la dernière question, mais là, ça va, pour le coup, c'est assez simple à comprendre. Qu'est-ce qui va séparer le juif du chrétien, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, puisque saint Paul, lui, pense que c'est pas définitif, on y reviendra la prochaine fois. Qu'est-ce qui va séparer le juif du chrétien? C'est de dire que c'est l'incarnation. C'est l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu se fait un homme. Dieu se fait un homme, à un moment donné. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Donc c'est même pas de dire que Jésus-Christ est le Messie. On peut très bien ça gêne pas forcément un juif qu'on lui dise que le Messie attendu par Israël c'est Jésus-Christ. C'est pas forcément un problème pour lui. Ce qui est un problème pour lui, c'est de dire que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. C'est l'incarnation. Vous voyez? Voilà. De toute façon, l'idée de Messie chez les juifs, elle est très très débattu, il n'y a pas du tout de voie unique par rapport à ça. Donc dire que Jésus-Christ est le Messie, c'est pas forcément que Jésus est le Messie, c'est pas forcément un problème pour un juif. Dire qu'il est Dieu, fils de Dieu, c'est un blasphème, et qu'il est Dieu, c'est incompréhensible. Voilà. Fin de ce, je regarde maman, de ce panorama à grands traits. J'espère que vous n'êtes pas trop horrifié par le schématisme de la présentation. Est-ce que vous avez l'impression que ça donne un petit peu de clarté ou ça augmente l'obscurité? Non, ça va? C'est bon. Alors, je regarde juste. Alors, c'est ça. Ah oui, ah si, très bien. Voilà, pour que ça soit un peu plus concret. J'ai beaucoup souligné la différence entre une vision panthéiste de la divinité et puis la vision monothéiste. Je l'illustre. Par deux textes, enfin, par deux séries de textes. Un texte que je prends chez un des plus grands penseurs de l'Inde, Sankara, bien connu des lecteurs de Black et Mortimer. Bon, vous irez voir. Vers l'an 800, hein, un des grands philosophes spirituels de l'Inde, qui parle de la divinité. Donc la divinité s'appelle le Brahman. Le Brahman, ça veut dire vraiment l'univers absolu du point de vue de l'absolu. Mais dans la pensée de l'hindouisme, il y a cette idée que moi-même, petit individu limité et un peu illusoire, j'ai au fond de moi une participation à ce Brahman absolu, puisque de toute façon il n'y a que lui, et qu'au fond, d'une certaine façon, je peux rejoindre l'absolu, je peux revenir à ma source, qui est l'absolu. Alors, on va lire ce texte qui est superbe, parce qu'il donne bien... Pardon.
Ce Brahman est la totalité de tous les êtres et de toutes choses, le soi de toute créature. Ce Brahman qui brille d'une lueur à une autre pareille, c'est parce que rien n'existe en le Brahman. C'est parce que cela est la seule réalité. Cette réalité qui ne doit son existence qu'à elle seule. C'est parce que cela est notre véritable soi, que tu es toi-même le suprême Brahman de paix et de pureté, l'un sans second.
Vous voyez, le mouvement de cette espèce de méditation est très impressionnant et très beau. C'est l'affirmation de l'unique absolu en dehors duquel rien n'existe, et d'une certaine façon vis-à-vis duquel je ne suis rien, et qui se renverse dans l'affirmation presque contraire, c'est-à-dire que je suis participant du Brahman. Et donc, finalement, ce Brahman, il est mon moi profond. Voilà. Et l'hindouisme aura un mot pour dire ça, c'est le mot Atman, qui veut dire le moi personnel en tant qu'il est, en fait, le Brahman en moi. Bon. Mais n'anticipons pas. Est-ce que ça vous fait sentir un petit peu ce que j'essayais de dire, ou pas plus que ça? Donc, un divin, disons-le, hein, impersonnel. Mais je ne mets pas de connotation péjorative quand je dis impersonnel, parce que souvent les chrétiens sursautent en disant « c'est impersonnel, c'est vilain ». Non, on essaiera de comprendre la logique de ça. Parce que pour un hindou, dire que quelque chose est personnel, c'est en quelque sorte le tirer du côté d'une représentation humaine et individuelle. Dire que Dieu est personnel, c'est au fond diminuer Dieu, hein, lui assigner les traits d'une personne. Donc il y a un risque, vous voyez, un risque d'idolâtrie. Et du coup, pour un chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut réfléchir sérieusement à la notion de personne. Qu'est-ce que c'est que la notion de personne? Qui a mis 3 siècles à émerger des alambics, des théologiens et des pères de l'Église. C'est pas rien, la notion de personne. Voilà. Alors maintenant, en contrepoint, des textes, de la perspective monothéiste. Hein. On va lire que le premier. Enfin, j'avais le choix, je peux prendre à peu près n'importe quelle page de la Bible. Mais bon, dans le livre d'Isaïe, on voit bien hein, ce magnifique livre que certains appelaient le cinquième évangile. On voit bien la tendresse très humanisée de Dieu dans son alliance avec l'homme. Sion disait, c'est Jérusalem, disait, le Seigneur m'a oublié. La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si celle-là oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Voici que sur mes paumes je t'ai gravé. Voilà, donc il y a cette dimension hein, d'accompagnement, de présence personnelle, d'un Dieu personnel. Après, j'ai mis une citation d'Ézéchiel qui développe plus la dimension communautaire hein, du peuple de Dieu, du peuple choisi, du peuple voulu, du peuple accompagné, perdu, retrouvé. C'est un passage très connu, hein, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, etc. Et puis, je me suis permis de mettre, non pas que je fasse dans le syncrétisme douteux, mais une très belle citation du Coran hein, qui montre tout de même, il faut contrebalancer ce que j'ai peut-être un peu trop durci tout à l'heure, une proximité de Dieu à l'égard de chaque homme, une proximité très intime. Oui, nous avons créé l'homme, nous savons ce que lui chuchote son âme, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulée. Voilà. Même si on n'est pas peut-être pas dans une logique d'alliance, d'accompagnement, il y a en tout cas une logique de la présence personnelle. Vous voyez que... Voilà, alors j'en ai fini avec ma première partie. Donc qui était une série de points de repère qui nous introduisent à toutes les prochaines rencontres. Ça m'a permis de poser quelques jalons, il y aura des effets de répétition qui seront certainement bonne chose. Et dans une deuxième partie, alors là, je pense que ça sera plus, peut-être moins technique, comment les théologiens chrétiens, comment l'Église, disons, pense-t-elle aujourd'hui son rapport aux autres religions ? Alors moi, je suis pas historien, je vais pas faire de grandes perspectives sur l'évolution des positions de l'Église vis-à-vis des autres religions, et puis d'ailleurs, c'est assez difficile à faire. Et donc, je m'en tiens à ce qu'a essayé de dire Vatican II. Je vous rappelle donc le texte Nostra Aetate, que vous avez en photocopie, pour essayer de dire un peu ce qui fonde cette vision chrétienne et même catholique des religions non chrétiennes. Comment allons-nous éviter ces deux écueils que j'ai signalés au début d'un exclusivisme? Le christianisme, c'est la vérité, donc toutes les religions sont des chemins d'erreur et de ténèbres, d'un côté, et puis de l'autre côté, un relativisme qui consiste à dire tous les chemins, toutes les religions sont des chemins, somme toute, équivalents, qui convergeront vers Dieu à la fin du chemin. Alors avant de donner quelques traits de la position de Vatican II, j'essaie d'en donner d'abord les fondements et qu'est-ce que dans Vatican II, qu'est-ce qui a déterminé un regard nouveau, en clair. Qu'est-ce qui a déterminé un regard nouveau sur les grandes religions, qu'est-ce qui est un regard, parce que si vous lisez le texte, ça va vous frapper, qui est quand même un regard très bienveillant. Voilà, vous verrez notamment vis-à-vis de l'islam qu'on a un paragraphe qui est un paragraphe très consensuel, hein, où on souligne énormément tout ce qui est commun entre le christianisme et l'islam, et on suggère qu'il y a des différences, hein, mais on va pas tellement les souligner. Alors, il faut aussi mettre dans le contexte, hein, le concile a voulu lancer un message fort à l'ensemble du monde, au monde de la culture, au monde de la croyance, aux autres religions. Bon, il s'agissait que ce soit un message quand même, voilà, bienveillant, d'espérance, etc. Alors, cela dit, on peut dire que dans le concile Vatican II, il y a deux accents quand même particulièrement approfondis qui vont se dégager. Alors ces deux accents, voici le premier, hein, c'est évidemment donc la question de la liberté de conscience et de la liberté religieuse. Ce que va dire le concile, alors c'est dans une autre déclaration à la dignité humaine, alors vous l'avez pas pour le coup, ce que va dire le concile, c'est l'acte de foi n'est vraiment lui-même que s'il est pleinement libre. L'acte de foi n'est vraiment lui-même que s'il est pleinement libre. Tout acte de foi qui serait conditionné, déterminé, imposé, n'est pas un acte de foi. De ce point de vue-là, affirmer par exemple qu'un musulman est dans l'erreur, c'est oublier qu'un musulman, comme un chrétien, comme un athée, comme n'importe qui, est d'abord un être en cheminement. Et que cet être en cheminement chemine vers la vérité. Et qu'avant d'être des musulmans, des chrétiens ou des athées, nous sommes des êtres qui cherchons la vérité. Alors, ça paraît un peu bête, c'est une évidence de dire ça, mais c'est pas si bête que ça. C'est-à-dire reconnaître à chaque conscience humaine d'abord le droit à chercher la vérité, avant d'enfermer les gens dans leur appartenance et éventuellement de les anathémiser pour leur appartenance. Alors je lis des extraits de la déclaration sur la liberté de conscience. Vous savez que c'est la déclaration qui a posé problème aux lefèvristes, hein. C'est celle-là. Enfin, passons. Chacun a le devoir et par conséquent le droit de chercher la vérité en matière religieuse afin de se former prudemment un jugement de conscience droit et vrai. Alors attention, c'est pas un texte de tolérance molle, parce que le texte dit quand même que j'ai un devoir vis-à-vis de la vérité. Celui qui s'installe dans l'indifférence, disant, de toute façon, n'est déjà pas juste vis-à-vis de la propre injonction de sa conscience. C'est quelqu'un qui fait taire une voix en lui. Donc chacun a le devoir de chercher la vérité, et donc évidemment le droit. C'est par la médiation de sa conscience que l'homme perçoit les injonctions de la loi divine. Alors, c'est une expression est un peu, pour le coup, un peu peut-être un peu maladroite, mais bon, je sais pas comment c'était en latin. En tout cas, les appels de la vie spirituelle en lui. Hein. C'est par la médiation de sa conscience, c'est elle, sa conscience, qu'il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités pour parvenir à sa fin qui est Dieu. Il ne doit donc pas être contraint d'agir contre sa conscience. Alors, voilà un texte qui fonde la liberté religieuse. Gros problème aujourd'hui, disons-le, en particulier dans le monde islamique, dans certains pays, en tout cas, mais aussi qui rappelle que chacun, chrétien ou musulman ou athée, est un être qui a, en quelque sorte, un devoir de conscience de chercher la vérité. Alors, vous voyez, le dialogue interreligieux, il faut le placer dans cette atmosphère-là. Si nous sommes des êtres enfermés dans nos certitudes, et j'en bougerai pas d'un millimètre, c'est sûr que le dialogue risque pas forcément de bien se passer, quoi. Voilà. Si je comprends que l'autre, comme moi, est en chemin vers la vérité, et que nous pouvons éventuellement nous éclairer mutuellement, nous approfondir notre propre chemin par celui de l'autre, la perspective est différente. Et puis deuxième intuition très forte dans Vatican II, c'est sûrement la plus importante, c'est pour le coup une vision renouvelée du mystère de l'Église. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat parce que c'est le truc que tout le monde a dans la tête, la fameuse formule « hors de l'Église, point de salut », hein, qui évidemment est une formule terrible et qui, si on la prend évidemment au sens littéral, devient une formule exclusive, d'exclusion, et qui précisément oublie que chacun est dans cette recherche de la vérité. Mais ce que Vatican II, à la suite de la méditation de grands théologiens du XXe siècle, par exemple le cardinal Journet, par exemple le cardinal de Lubac, Urs von Balthasar, c'est quoi l'Église? C'est la question, qu'est-ce que c'est que l'Église? Est-ce que l'Église est un pré aux frontières marquées, définitives, de sorte que soit je suis dedans, soit je suis en dehors, ou est-ce que c'est une réalité plus subtile dont nous ne connaissons pas les limites? Et de ce point de vue-là, il faut être très clair, le Concile Vatican II n'a vraiment rien inventé. Il a souligné quelque chose, mais c'est quelque chose qui est tout à fait traditionnel dans l'Église et d'abord dans l'Évangile, et même dans toute la Bible. Rappelez-vous comment dans l'Ancien Testament, ce sont très souvent des païens, des non-juifs qui donnent des leçons de piété aux fils d'Israël. Prenez par exemple l'épisode extraordinaire du péché de David, quand David convoite une femme, Bethsabée, donc fait plus que la convoiter, et ensuite sait pas comment se débarrasser du mari, qui va finir par envoyer se faire tuer à la guerre. Le mari de Bethsabée s'appelle Uri le Hittite. C'est-à-dire, c'est un païen. Eh ben, Uri le Hittite va donner des leçons, sans même le savoir, en toute inconscience, va donner des leçons de piété à David. En particulier en refusant de s'unir à sa femme pendant qu'Israël est en combat. Donc, il reste au pied de sa maison. Alors que David aurait voulu. Je vous passe les détails. C'est une histoire sordide, comme souvent dans la Bible, qui est vraiment un livre d'histoire très humaine. C'est ce qui la rend précieuse. Et en tout cas, dans cet épisode-là, comme dans de nombreux autres épisodes, le païen peut être un aiguillon de piété et même un modèle. Il y a aussi la même chose avec le livre de Job. Job est présenté comme un païen juste devant Dieu. Bon. Si on regarde l'Évangile maintenant, alors là, le Christ, avec sa délicatesse habituelle, ne se prive pas de donner en exemple aux fils d'Israël et à ses apôtres des païens. Le centurion, jamais je n'ai vu de foi aussi grande en Israël. Il s'agit d'un Romain. La Cananéenne, donc ça c'est encore pire, une tribu, la religion très très abattardie. Femme, ta foi est grande. Dans les Actes des Apôtres, saint Paul est envoyé à Corinthe, qui est la grande ville païenne qui déborde de débauche, et Dieu lui dit « J'ai un peuple nombreux à moi dans cette ville », alors que la ville n'a pas été évangélisée. Voilà. On voit bien que le mystère, si vous voulez, de l'action de Dieu dans l'histoire, mystère de l'Église, quoi, déborde complètement les limites qu'on voudrait lui assigner. Il déborde complètement les limites qu'on voudrait lui assigner. Le cardinal Journet, que j'ai cité, hein, qui est un immense théologien suisse, qui a été par ailleurs un ami de 50 ans d'amitié de Jacques Maritain, philosophe, qui est le grand penseur de l'Église, disait, alors la formule va être un petit peu imprécise, mais c'est l'idée, j'en suis sûr, il disait, on ne peut pas savoir, on sait où est le centre de l'Église. Le centre de l'Église, c'est l'Eucharistie. C'est le Christ qui se donne chaque jour à son peuple. Mais on ne peut jamais savoir où sont les limites de l'Église. On ne peut jamais savoir où sont les limites de l'Église. Et il ajoutait, probablement les limites de l'Église traversent chacun de nos cœurs. Si vous voyez, c'est quoi l'Église pour un chrétien? Alors, je parle de l'intérieur de la foi, vous l'aurez compris. C'est quoi l'Église pour un chrétien? C'est l'action actuelle de l'Esprit du Christ dans l'histoire du monde. C'est l'action actuelle de l'Esprit du Christ dans l'histoire du monde. Où sont les bornes de l'Église? Où s'arrête cette action? Où j'ai le droit de dire qu'elle n'est pas? Nul ne le sait. Voilà. Du coup, hors de l'Église, point de salut peut-être? Mais qui pourra dire qui est hors de l'Église et qui est dedans? Vous voyez que la formule, du coup, perd son caractère violent, hein, ou problématique. Alors, soyons concrets, que dit le Concile? Parce que certains doivent dire, oh là là, du fou, il est en train de nous embobiner avec ses sornettes, mais voilà ce que dit le Concile. Ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile du Christ et son Église, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas, ou alors qui ont une vision abîmé, caricatural, et cependant cherche Dieu d'un cœur sincère, et qui, sous l'influence de sa grâce, la grâce de Dieu, s'efforce d'accomplir dans leurs actes sa volonté, qu'ils connaissent par les injonctions de leur conscience, ceux-là aussi peuvent obtenir le salut éternel. Voilà. Alors, ça, c'est une idée qui, pour le coup, nos frères juifs sont parfaitement à l'aise avec ça, puisque vous savez que les juifs ne cherchent pas à convertir les autres hommes. On a le droit de se convertir au judaïsme, contrairement à ce qu'on dit. Parfois, on a tout à fait le droit. Mais ce que vous demandera un juif, c'est pas de vous convertir au judaïsme, c'est de vivre dans la justice. Eux, les juifs, ils ont reçu une mission de témoignage. Pas facile à porter. Si vous voulez la porter avec eux, allez-y, ça sera beaucoup de problèmes. Mais en tout cas, votre devoir, à vous, c'est de vivre selon la justice. Voilà. Voilà. Et là, du point de vue chrétien, quelque chose d'un petit peu analogue. Bon, il y a quand même une différence, hein. Quelque chose d'analogue. C'est-à-dire que ce que dit le Concile, c'est que il peut y avoir des gens qui n'ont jamais entendu parler de la Bible, qui n'ont jamais entendu parler du Christ, ou alors qui en ont entendu parler n'importe comment. Quand même, quand on pense à tous ces grands convertis du XXe siècle, les Maritains, les Péguy, les Claudel, lisez leurs récits de conversion, le dénominateur commun, c'est une perception de l'Église catastrophique et en toute innocence. De sorte que lorsqu'ils sont touchés par la grâce, ils ont une espèce de déchirement en disant « Oh là là !» Maritain, quand il se convertit, il dit « Si Dieu a caché sa vérité dans un tas de fumier, ben on ira au tas de fumier. » Voilà, pour le grand philosophe catholique Jacques Maritain, bon, il avait à l'époque 25 ans, quoi, mais c'était ça, sa perception de l'Église, vous voyez. Ce que dit le Concile, c'est qu'il y a des tas de gens qui ne connaissent pas le Christ, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ont une image fausse de l'Église. Si ces gens-là sont en droiture de cœur, attention, il y a quand même une exigence, sans faute de leur part, ben, ces gens-là peuvent être sauvés. Vous voyez. Ce qui montre bien qu'il y a un mystère de l'Église qui déborde à nouveau, hein, toutes les limitations qu'on peut lui imposer. Alors voilà pour les deux préalables que je voulais souligner. Donc le rappel de la la nécessité de la liberté de conscience dans l'acte de foi, et deuxièmement, le mystère de l'Église, plus vaste que nos perceptions. Voilà, alors à partir de là, je vais, pour éclairer un tout petit peu le texte de Vatican II, je vais faire quatre grandes remarques. Voilà, après vous lirez le texte, vous verrez si s'il y a matière à compléter. Quatre grandes pistes, si vous voulez, pour comprendre cette vision chrétienne des autres religions. Alors, première remarque, c'est pour mettre bien à l'aise ceux qui entendent trop souvent « le chrétien possède la vérité », ou celui qui s'imagine que le chrétien est quelqu'un qui croit posséder la vérité. Pour le chrétien, la vérité est une personne. Pas n'importe quelle personne, en plus, la personne même de Dieu faite homme dans le Christ. La vérité, c'est une personne. Le Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport à la vérité, pour un chrétien, n'est pas un rapport à une doctrine, d'abord. Ou à une idée. Le rapport à la vérité est le rapport à une personne. C'est donc quelque chose qui se joue dans une relation, qui se joue dans une affection, qui engage d'ailleurs toute la personne, corps, âme, esprit. Cœur, on pourrait dire, dans un amour, dans une alliance. Toujours cette idée de l'alliance. Voilà. Du coup, cette affirmation un peu grossière, le chrétien possède la vérité, est une affirmation qu'il faut à tout prix corriger. Le chrétien essaye de se laisser posséder par la vérité. Et parfois, déposséder par la vérité. Tellement nous sommes forts, nous chrétiens, mais je pense que d'autres le sont autant que nous, à recréer Dieu à notre image. À faire de Dieu, effectivement, peut-être la consolation de nos frustrations ou la projection de nos fantasmes. C'est là que l'athéisme, d'ailleurs, nous réveille. En disant, attention, qu'est-ce que tu mets derrière ton idée de Dieu? Voilà. En tout cas, la relation à la vérité est une relation d'amour, relation à une personne. Ça, c'est le premier... La première chose que je voulais souligner. Alors, il y aura un petit temps de questions, hein, après. Deuxième idée, pour ceux qui sont un peu désespérés, souvent chez les jeunes, c'est des questions qui se posent, c'est de dire, mais il y a tellement de religions, il y a tellement de courants différents, finalement, est-ce que c'est pas une sorte d'aveu d'impuissance que l'homme finalement ne peut pas connaître Dieu? Et ça donne raison à l'attitude, disons, agnostique. La première chose qu'il faut dire, c'est se réjouir que l'homme soit cet être spontanément, presque instinctivement spirituel, c'est-à-dire cet être qui ne se nourrit pas que de pain, mais de signification, de sens. Cet être qui n'a jamais tant besoin que ce qui est inutile. De beauté, de sens, de vérité, de joie. Et de ce point de vue-là, donc le texte de la Genèse, qui nous montre que l'homme est créé spirituel, capable de Dieu, ce texte nous fait comprendre que cet homme, naturellement, recherche Dieu. Et que donc les religions naturelles, toutes ces religions qui spontanément accompagnent l'humanité, sont d'abord le témoignage que l'homme est un être spirituel. Que l'homme est un être spirituel, comme dit Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. L'homme passe infiniment l'homme. Où se trouve l'homme? Au-dessus de lui-même. C'est ça qui est pénible, parfois. Toujours au-dessus de lui-même. Il y a cette espèce de dynamique de dépassement, hein, qui est constitutive de ce qu'on appelle la vie spirituelle. Voilà. Alors, du point de vue chrétien, maintenant, parce que quand même, du point de vue chrétien, il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de naïveté, alors finalement, tout est merveilleux, tout est beau, tout... Non. Il y a cette réalité qu'on appelle le péché, qui est un obscurcissement des facultés naturelles de l'homme, et qui font que dans toutes ces traditions spirituelles naturelles, il peut y avoir des choses tout à fait inhumaines, tout à fait blessées, tout à fait abîmées. Mais ce que le Concile Vatican II répète des pères de l'Église, hein, parce que là encore, le Concile de Vatican II n'invente rien. Il va reprendre au contraire des intuitions très anciennes de l'histoire de l'Église. C'est que l'homme, même plongé dans des systèmes, mettons, religieux, faussés, abîmés, blessés, il y a toujours en lui un dynamisme vers la vérité, de sorte qu'il faut reconnaître des étincelles de vérité, des germes de vérité, dans les grandes traditions de l'humanité. Vous savez que les pères de l'Église, dont beaucoup étaient des philosophes formés et super formés à la philosophie grecque, quand on pense aux pères cappadociens, Saint Grégoire de Nice et tout ça, qui étaient allés étudier à Athènes avec à côté de futurs empereurs, hein, comme Julien l'Apostat par exemple, il y avait quand même des gens qui... Bon, et ces gens-là étaient très à l'aise avec l'idée que dans la philosophie grecque, il y avait des germes de vérité et même des préparations évangéliques. Une préparation évangélique chez un Aristote qui n'a jamais connu ni la Bible ni évidemment pas l'Évangile, on ne risque pas. Voilà. Alors, je prends l'un des plus anciens, Justin de Rome, qui parle du Christ comme étant la parole de Dieu, hein, le fameux Verbe de Dieu, le Logos. Et il dit cette parole de Dieu, ce Verbe de Dieu, en fait, tous les hommes, d'une certaine façon, y participent. Donc le Christ est le premier-né de Dieu, son Logos, auquel tous les hommes participent. Voilà ce que nous avons appris, ce que nous avons déclaré. Ceux qui ont vécu selon le Verbe sont chrétiens, eussent-ils passé pour athées, comme chez les Grecs, Socrate, Héraclite et leurs semblables. C'est drôle, hein, comme expression. Ben, Héraclite et Socrate, et tous les chrétiens. Évidemment, on peut mettre des nuances, mais voilà ce que dit un des premiers grands penseurs chrétiens. Voilà, des espèces de chrétiens inconnus... Et chez les barbares, parce que c'est un grec qui parle, évidemment, parce que là, il parle des juifs, maintenant. Chez les juifs, je préfère dire, hein, Abraham, Élie et tant d'autres, vous voyez. Bon. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a une espèce de, il semble mettre sur le même pied les grecs, et les juifs. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, alors le concile a utilisé une expression très ancienne qui est les semences du verbe. Voir les semences du Verbe, c'est-à-dire les préparations évangéliques, les préparations de la vérité du Christ dans les grandes traditions. Voilà. Alors là encore, certains vont me dire, bah oui, mais alors vous êtes en train de célébrer là toutes les traditions, finalement en les mettant sur un pied d'égalité. Bah oui, le Christ travaille toutes les traditions, bah, finalement. Bon. Il y a quand même une grande différence, évidemment, entre ces traditions que des sages, des penseurs ont approfondies, hein, cette vérité qu'ils ont recherchée par leurs forces humaines, et c'est bouleversant. Il y a tout de même une différence entre ce mouvement humain vers Dieu et ce que l'on appelle la révélation. L'idée de révélation, c'est tout de même l'idée d'un don gratuit qui vient de Dieu. L'idée de révélation, hein, c'est quelque chose qui est donné par Dieu, que l'homme n'aurait pas pu inventer, n'aurait pas pu conquérir. La révélation biblique, elle vient de Dieu, et non des hommes. De ce point de vue-là, si elle est capable justement d'éclairer toutes les germes de vérité des traditions, c'est précisément parce qu'elle est plus haute. Elle est plus haute. Elle est capable donc de manifester ce que les religions naturelles ont pu découvrir. Alors va-t-elle, cette révélation, écraser les richesses des traditions humaines ? Non. Elle va les assumer, et éventuellement les purifier, les accomplir. Et là, voilà, vous savez, bon, si on est un tout petit peu plus concret, quand on parle des missionnaires chrétiens, catholiques, protestants, il y a toujours eu finalement une tension entre ceux qui, arrivant dans des pays, par exemple comme en Afrique, voulaient faire table rase de tous les cultes, de tous les trucs sans trop discernement, et puis ceux qui disaient, attendez, on va étudier, on va voir ce qui est intéressant, ce qui est pertinent, ce qui est mauvais, et on va faire un discernement. Il y a toujours eu dans l'histoire de l'Église cette double sensibilité. Quand on prend les jésuites, c'est quand même été des ethnologues incroyables. De toute façon, les premières connaissances qu'on ait eues des peuples primitifs en Afrique, en Inde, tout ça, ça vient tout en général de missionnaires. Alors c'était pas n'importe quel missionnaire, mais souvent des missionnaires très érudits qui ont fait tout un travail d'études, etc. Et à Lyon, on en a de beaux exemples, hein, si on pense à l'abbé Montchanin en Inde et des gens comme ça. Donc la démarche chrétienne, je dirais, c'est une démarche qui n'abolit pas les richesses, mais qui essaie de les assumer en les purifiant. Alors, deux petits exemples, et d'ailleurs j'en prendrai qu'un, parce que le bouddhisme, on aura beaucoup de temps pour en reparler, donc je prends juste ce qui concerne le culte des ancêtres. Alors, on sait bien que, comme je le disais tout à l'heure, dans toutes les religions coutumières, il y a le culte des ancêtres. C'est vraiment la chose la plus répandue, la plus évidente. C'est pour un Africain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ancêtres morts il y a longtemps sont toujours présents et actifs dans la vie de la famille. Et que il est bon de leur rendre un certain, je dirais pas un certain culte, mais en tout cas une certaine dévotion pour qu'ils soient favorables à la vie de la famille. Le christianisme arrive là-dedans, il peut très bien dire, bon tout ça c'est des superstitions, l'homme a sa liberté personnelle, il n'a pas à pratiquer des... Bon. Quelle est la bonne attitude chrétienne, là, si je puis dire, hein, c'est de reconnaître dans le culte des ancêtres une intuition, peut-être un peu grossière, mais en tout cas une vraie intuition, de ce qu'on peut appeler la communion des saints. C'est-à-dire le fait que oui, il y a une unité du genre humain, il y a une permanence des liens qu'on a pu avoir au-delà de la mort, mais en revanche, il est demandé, oui, par l'Église aux croyants de ne pas en user. C'est-à-dire de l'accueillir dans la prière, de prier pour les morts, et c'est tout. De pas se livrer à des espèces de trafic, parce que ça existe. Personnellement, j'ai vécu 2 ans en Afrique noire, et j'ai vraiment des exemples étonnants de gamins qui disent, ma grand-mère me demande de lui faire des trucs et tout, puis la grand-mère était morte 10 ans avant, mais le gamin était malade, et il avait mal à la tête, etc., et le guérisseur lui avait dit, bah, c'est ta grand-mère, il faut lui payer ci, il faut lui payer ça. Enfin, voilà. Toute une espèce de dégradation, superstitieuse d'une réalité qui, en soi, a quand même du sens. Vous voyez? Donc, il y a un discernement à faire. Il faut assumer, il faut pas détruire. Il faut assumer, il faut purifier. Mais il faut pas forcément détruire. Voilà. Dernier point, et puis ça sera terminé, on pourra prendre un petit temps de discussion, pas très long, c'est que ce que l'Église catholique et toutes les Églises chrétiennes affirmeront toujours, c'est que le Sauveur, l'unique Sauveur, est le Christ. C'est vrai que si on enlève ça, voilà, si on enlève ça, on est dans une forme de relativisme, alors on peut... voilà, mais ça, c'est ce que l'Église affirmera toujours, et toutes les Églises chrétiennes, le Christ est l'unique Sauveur. En revanche, par quel moyen rejoint-il chaque homme, plus ou moins éloigné de l'Église, plus ou moins pris dans un système culturel qui n'a rien à voir, plus ou moins... voilà, ça, ce sont les moyens qui appartiennent au Christ, hein, et que l'Église institutionnelle ne connaît pas forcément. Autrement dit, le Christ est le seul sauveur, mais les modalités de son action dépassent les frontières de l'Église visible. Donc c'est toujours cette idée que je soulignais tout à l'heure. Et donc, l'action du Christ peut agir chez tout homme de bonne volonté, et donc des hommes plongés naturellement dans l'incroyance, et naturellement aussi dans d'autres religions. Alors voilà pourquoi ma formule est un petit peu celle d'un équilibriste, hein, les hommes de volonté également dans les autres religions, sinon par elles. Bon, alors là, il y a tout un débat, je suis pas assez savant pour rentrer là-dedans, mais en gros, voilà ce qu'on peut dire, en tout cas en première approche. Alors voilà Je regarde si j'avais autre chose. Ben oui, si, quand même. Du coup, citation de Vatican II, vous pourrez relire ce soir en langue de péché. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions, les religions dont elle vient de parler dans le texte, les religions orientales, l'islam, le judaïsme, évidemment. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui, et vous allez voir la formule bien balancée, quoi qu'elle diffère en beaucoup de points de ce qu'elle-même tient et propose, cependant apporte souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Un rayon de la vérité, traduire le Verbe, Christ. Voilà. Bon. Toutefois, elle annonce, elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu s'est réconcilié toutes choses. Autrement dit, dans l'Église, à travers les sacrements de l'Église, quelque chose d'irréductible est donné, la plénitude des moyens du salut. Cela n'empêche pas que le Christ puisse rejoindre, par les moyens qu'il connaît, des hommes dans d'autres religions, dans d'autres situations spirituelles. Voilà, j'espère ne pas trahir la pensée de Vatican II en disant cela.